Alors qu'il existe un Jules Verne noir, un Jules Verne angoissé, un Jules Verne fantastique, il y a sa part, tout aussi importante que l'autre, qu'on connaît moins, et pourtant, ce Jules Verne gothique, eh bien, c'est par ça, par là qu'il avait commencé quand il était jeune auteur. Et le roman dont vous allez entendre ce soir de larges extraits, est un roman qui est à la fois les deux, c'est ça qui est intéressant. C'est un roman de 1892, qui est d'abord paru évidemment dans le magasin La Revue de Hetzel en 1891. Il sort en volume et en grand illustré en 1892, et Jules Verne y pense depuis, dit-on, si on enquête bien dans sa correspondance, depuis 1884. C'est une période qui n'est pas à la fois de façon fructueuse pour lui, en même temps redoutable, puisque c'est après 1886, ce que on appelle l'annus horribilis, c'est l'année où à la fois son éditeur et son inventeur Hetzel meurent, où son neveu Gaston Verne tente de l'assassiner d'un coup de pistolet, ce qui le rendra infirme puisqu'il gardera une balle dans la jambe jusqu'à la fin de ses jours, et ça le rendra même morphinomane pour guérir les souffrances endurées. C'est l'année où il voit ses ventes considérablement baisser et où il est obligé de vendre son yacht à vapeur. Donc c'est les années 86-90, ne sont pas des années extraordinaires pour Jules Verne, qui n'est plus aussi à la mode qu'il l'a été. Donc ce personnage qui avait déjà tendance à être un peu sombre, un peu renfermé, eh bien, devient encore plus taciturne et se terre de plus en plus dans sa maison d'Amiens. Alors donc ce château des Carpates participe un peu de cette atmosphère noire. C'est donc un Jules Verne gothique, un Jules Verne fantastique, qui fait penser à celui de Maître Zacharius, un de ses premiers textes, qui met en scène un horloger suisse qui se veut le rival de Dieu, qui invente des horloges que le diable arrête tout instantanément. C'est également le Jules Verne proche de Matthias Sandorff, le secret de Wilhelm Storitz également. Wilhelm Storitz, cette histoire qui anticipe sur l'affaire de l'homme invisible de Wells. Donc c'est le Jules Verne fantastique, le Jules Verne noir, et il dit que eh bien, son roman est fantastique, mais scientifique. Comme s'il avait à s'excuser d'être fantastique. C'est vrai que chez Hetzel, la scientificité est plutôt mieux vue que les spectres et les fantômes. Mais vous allez voir qu'en définitive, il n'y a pas beaucoup de spectres, mais encore moins de fantômes. Alors, on boucle avec Dracula, on se retrouve dans la Transylvanie, qui est à l'époque une région des Balkans intégrée à l'Empire ottoman, où on parle l'allemand, le hongrois, et où se passe cet événement tout à fait anodin, mais terrorisant à l'échelle locale, c'est que le château de Wertz, qui est le château de Gortz, eh bien, se met à fumer. La cheminée fume, alors que normalement, rien ne doit se passer, puisqu'en réalité, le château doit être désert et inhabité. Et c'est le début d'une aventure extraordinaire, puisque les villageois ont commencé à enquêter sur les raisons de cette cheminée qui se réveille sans prévenir et de manière un peu absurde. En même temps, Jules Verne utilise cette circonstance pour faire un portrait assez haut en couleur du folklore local, de la culture populaire balkanique, et notamment du heurt qu'il y a entre la civilisation, je dirais, la superstition populaire, et puis la tentative de rendre un petit peu moins forte et moins intense cette superstition, avec le conflit en permanence entre les conteurs et l'instituteur, ça c'est un premier aspect. Et puis après, l'affaire va véritablement se déclencher, puisque arrive dans ce village eh bien, un jeune aristocrate qui voyage pour oublier la mort de sa muse chérie, la cantatrice Tila. Et puis il apprend que le château est la propriété de l'homme qui lui a volé son amour. Et donc il va évidemment donner l'assaut à sa manière au château. Et là, je ne vous en dis pas plus, mais vous allez voir que Jules Verne se lance dans ce qui est peut-être une de ses rares véritables invention scientifique, c'est-à-dire la télévision et le cinéma. Michel Serres, qui a lu tout Jules Verne et qui le connaît jusque à la dernière lettre, dit que c'est peut-être là que Jules Verne, qui d'habitude recycle des inventions qui lui sont contemporaines, invente quelque chose, puisqu'il invente ni plus ni moins que peut-être la télévision, en tout cas le cinéma, et qu'il arrive à conjoindre, eh bien, je dirais, la mythologie spectrale du romantisme anglais, le gothique avec ses Lucie de la Mermoor, avec ses femmes spectrales qui errent la nuit dans les forêts, avec au contraire un monde technologique tout à fait novateur et qui est vraiment prophétique. Donc je vous laisse perdu, vous avez de la chance, dans le château des Carpates. La lecture qui va vous être faite eh bien, va justement se répartir entre ces trois aspects. Qu'est-ce que cet univers superstitieux et folklorique des Balkans, la rencontre, le conflit, la lutte à mort entre ces deux aristocrates pour le souvenir de cette cantatrice défunte, et puis les nouveautés et les trouvailles technologiques de Jules Verne, avec la figure extraordinaire de l'inventeur qui s'appelle là Orphanique, c'est-à-dire Orphée plus la mécanique. Bonne nuit.
Merci.
Le 29 mai de cette année-là, un berger surveillait son troupeau à la lisière d'un plateau verdoyant. Frick du village de Verse, ainsi se nommait ce rustique patour, aussi mal tenu de sa personne que de ses bêtes. Mais il était grand, sec, droit, et un peintre ne daignerait pas d'en saisir la silhouette lorsque, coiffé d'un chapeau, il s'accotait sur son bâton aussi immobile qu'un roc. Il était 4 heures de l'après-midi. Le soleil commençait à décliner. Au moment où les rayons pénétraient à travers la brisure de l'ouest, Frick se retourna, puis de sa main à demi fermée, il se fit un porte-vue et il regarda très attentivement dans l'éclaircie de l'horizon se profiler la forme du bourg. Frick s'écria en hochant la tête. « Vieux bourg, encore 3 ans et tu auras cessé d'exister, puisque ton être n'a plus que 3 branches. » Ce être, planté à l'extrémité de l'un des bastions du bourg, s'appliquait en noir sur le fond du ciel comme une fine découpure de papier. Puis Frick s'écria d'une voix où l'effroi se mêlait à la surprise. « Qu'est-ce donc cette brume qui s'échappe du donjon ? On dirait une fumée ? C'est pas possible. Depuis des années et des années, les cheminées du bourg ne fument plus. » C'était bien une fumée qui se déroulait à la pointe du donjon. Elle montait droit dans l'air calme et son panache se confondait avec les hautes vapeurs. Frick reprit le chemin du village. La campagne était déserte à cette heure. À en croire divers touristes, le château des Carpates n'existe que dans l'imagination des gens du comitat. Évidemment, le moyen le plus simple de s'en assurer serait de prendre un guide, de remonter le défilé, de visiter l'ensemble de ces constructions. Seulement personne, pour n'importe quelle rémunération, ne consentirait à conduire un voyageur au château des Carpates. Les barons de Gortz étaient seigneurs du pays depuis un temps immémorial. Ils furent mêlés à toutes ces guerres qui ensanglantèrent les provinces transylvaines, et ils répandirent leur sang pour la cause de l'indépendance, ce sang qui leur venait des Roumains, leurs ancêtres. Vers le milieu du XIXe siècle, le dernier représentant des seigneurs de Gortz était le baron Rodolphe. Il avait vu sa famille s'éteindre autour de lui pendant les premiers temps de sa jeunesse. À 22 ans, il se trouva seul au monde, et dès lors, il disparut. On apprit plus tard qu'il consacrait sa fortune à parcourir les théâtres d'Allemagne, de France, d'Italie. La mort ne tarda pas à priver le bourg de ses derniers serviteurs, et celui-ci fut totalement délaissé. Château abandonné, château hanté, château visionné. Les vives et ardentes imaginations l'ont bientôt peuplé de fantômes. Et quel bourg fut pour servir de refuge aux hôtes de cette mythologie roumaine, si ce n'est le château des Carpates? Il répandait autour de lui une épouvante épidémique, comme un marais insalubre répand des miasmes pestilentiels. Le berger s'était mis en mesure de reprendre le chemin du village pour y apporter l'incident de la fumée. Le premier qu'il apprit fut le juge Colt. Du plus loin qu'il l'aperçut, Frick lui cria « Le feu est au bourg, notre maître ! Que dis-tu là, Frick ? Je dis ce qui est ! Tu prétends, Frick, tu prétends que le bourg brûle ? S'il brûle pas, il fume !» Entre-temps, une douzaine de voisins étaient arrivés sur la terrasse. « Une fumée ! Une fumée au bourg, dit l'un ! Peut-être est-ce le tonnerre ? Peut-être que le tonnerre est tombé sur le donjon, fit observer l'autre. Est-ce qu'il a tonné ? demanda Maître Colt en s'adressant à Frick. Pas un coup depuis 8 jours, répondit le berger. Le village de Verse a si peu d'importance que la plupart des cartes n'en indiquent point la situation. C'est une rue, ce village. Rien qu'une rue dont les pentes brusques rendent la montée et la descente assez pénibles. Une 60aine de maisons irrégulièrement accroupies sur l'unique rue, 2 ou 3 mares qui fuient pendant les orages, tel est le village de Verse. La civilisation est comme l'air ou l'eau. Partout où un passage lui est ouvert, elle pénètre et modifie les conditions d'un pays. Il faut le reconnaître, aucune fissure ne s'était encore produite à travers cette portion méridionale des Carpates. Comment en pourrait-il être autrement dans ces endroits où chacun naît, grandit, meurt sans jamais les avoir quittés? Et pourtant, fera-t-on observer, il y a un maître d'école et un juge à Verse. Le juge, Maître Colt, était un petit homme de 55 à 60 ans, roumain d'origine, les cheveux ras et grisonnants, les yeux plus doux que vifs. Il s'occupait surtout d'administrer son village autoritairement et non sans quelques agréments pour sa bourse. Veuf depuis une dizaine d'années, il avait une fille, la belle Myriota, très admirée de Verse jusqu'à Vulcan et même au-delà. C'était une gracieuse fille de 20 ans, blonde avec des yeux bruns, charmante de traits et d'une agréable tournure. Oui, une belle fille, Myriota Colt. Et ce qui ne gâte rien, riche pour ce village perdu au fond des Carpates. Inutile de la courtiser d'ailleurs, n'est-elle pas déjà fiancée à Nicolas Deck? Un beau type de roumain, ce Nick Deck. 25 ans, taille haute, un air de résolution dans sa démarche et ses gestes. Il était forestier de son état. Pour compléter la liste des notables de Verse, il convient d'en citer 2 encore, le magistère et le médecin. Le magistère Hermod était un homme gros, à lunettes, cheveux rares et ébouriffés sur un crâne aplati, face glabre avec un tic à la joue gauche. Il n'était capable d'enseigner que ce qu'il savait, c'est-à-dire un peu à lire, un peu à écrire, un peu à compter. En fait de science, d'histoire, de géographie, de littérature, il ne connaissait que les chants populaires et les légendes du pays environnant. Et maintenant, autour du médecin Patak. Patak, petit homme gros et court, faisait de la médecine courante à Verse et dans les environs. Il n'avait aucune instruction, ni en médecine, ni en pharmacie, ni en rien. Mais le docteur Patak était un esprit fort. Aussi n'admettait-il aucune des superstitions qui ont cours dans la région des Carpates, pas même celles qui concernaient le bourg. « Faudrait pas me défier d'aller rendre visite à votre vieille Cassine », répétait-il à qui voulait l'entendre. Mais comme on ne l'en défiait pas, le docteur Patak n'y était point allé, et la crédulité aidant, le château des Carpates était toujours enveloppé d'un impénétrable mystère. Il y avait à Verse un lieu de réunion, fréquentait des buveurs et même affectionné de ceux qui, sans boire, aiment à causer de leurs affaires. Ce local ouvert à tous était l'unique auberge du village, l'auberge du roi Matisse. Quel était le propriétaire de cette auberge? Un juif du nom de Jonas, brave homme de physionomie engageante avec ses yeux noirs, son nez courbe et sa barbiche traditionnelle. C'est dans cette auberge que le soir même, il y eut réunion des grosses têtes de Verse. On causait du grave événement à l'ordre du jour, mais on ne causait pas sans manger et sans boire. Aussi Jonas allait-il d'une table à l'autre, le broc à la main, remplissant les gobelets qui se vidaient sans compter. C'est très grave, dit Maître Colt. Très grave, répéta le magistère entre 2 bouffées de sa pipe. Très grave, répéta l'assistance. Ce qui n'est que trop sûr, reprit Jonas, c'est que la mauvaise réputation du bourg faisait déjà grand tort au pays. Les étrangers n'y venaient que rarement, répliqua Maître Colt. Et à présent, ils ne viendront plus du tout, ajouta Jonas. On voit où ils en étaient de leur conversation, ces dignes notables.
À travers les terreurs personnelles que leur occasionnait le château des Carpates, surgissait le sentiment de leurs intérêts si regrettablement lésés. Le berger Frick crut alors devoir dire d'une voix assez hésitante « Peut-être faudrait-il y aller voir ?» Tous s'entre-regardèrent, puis baissèrent les yeux, et cette question resta sans réponse. Ce fut Jonas qui, s'adressant à Maître Colt, reprit la parole. « Votre berger a raison, dit-il d'une voix ferme. Il faut savoir ce que cela signifie. C'est la première fois qu'une fumée s'échappe du château depuis que le baron l'a quitté. » La remarque était juste. Il était indubitable que des êtres humains occupaient actuellement le château des Carpates. Le magistère Hermant crut devoir apporter cette objection à l'appui de ses croyances. Pourquoi des êtres humains auraient-ils eu la pensée de se réfugier au bourg et comment y serait-il arrivé ? Que voulez-vous donc qu'ils soient, ces intrus ? S'écria Maître Colt. Des êtres surnaturels, répondit le magistère Hermant d'une voix qui imposait. Pourquoi ne seraient-ce pas des esprits, des gobelins, peut-être même quelques-unes de ces dangereuses lamies qui se présentent sous la forme de belles femmes? À cet instant, la porte de l'auberge s'ouvrit brusquement au grand effroi de l'assistance. Ce n'était que le docteur Patak, et il eût été difficile de le prendre pour une de ces lamies enchanteresses dont le magistère Hermord avait parlé. D'un ton passablement ironique, il s'écria « Alors, les amis, c'est toujours le bourg qui vous occupe ? Ah, les poltrons ! Mais s'il veut fumer ce vieux château, laissez-le !» Et alors le juge de lui demander « Ainsi, docteur, vous n'attendez aucune importance à ce qui se passe au bourg ?»« Aucune, maître Colt. Est-ce que vous n'avez pas dit que vous seriez prêt à vous y rendre ?»«
Moi ?» répondit l'ancien infirmier. « Je l'ai dit, sans doute, et vraiment, s'il s'agit que de le répéter... »
Il s'agit de le faire, dit Hermord.
Le faire ? À quoi me servirait d'aller là-bas ? Et qui trouverais-je ? Quelques braves gens qui se sont réfugiés au bourg et qui ne gênent personne ?
Visiblement, en dépit de ses constantes fanfaronnades, le docteur était aussi poltron que ses compatriotes.
Voyons, docteur, il me semble que vous n'avez absolument rien à risquer, reprit le magistère Hermord,
puisque vous ne croyez pas aux esprits.
Non, j'y crois pas.
Or, si ce ne sont pas des esprits qui reviennent au château, ce sont des êtres humains et vous ferez connaissance avec eux.
Le raisonnement du magistère ne manquait pas de logique. Il était difficile à rétorquer.
Parlez franchement. Êtes-vous décidé à partir ? Demanda l'aubergiste.
Ma foi, non, répliqua le docteur. Cela me paraît ridicule parce qu'une fumée est sortie du donjon. Une fumée qui n'est peut-être pas une fumée. Non, j'irai pas au château des Carpates.
J'irai, moi. Mais à la condition que Patak m'accompagnera. C'était le forestier Nick Deck qui venait de jeter ces mots directement envoyés à l'adresse du docteur qui fit un bond pour se dépêtrer. «
Voyons, Nick, répliqua-t-il, tu sais bien qu'il n'y a même plus de route pour aller au bourg. »«
J'ai dit que j'irai au bourg, »
répondit Nick Deck.
« Et puisque je l'ai dit, j'irai. »«
Moi, je ne l'ai pas dit, » s'écria le docteur.
« Si, vous l'avez dit, » répliqua Jonas.
« Ouais, ouais, » répondit d'une seule voix l'assistance.
Ah, combien il regrettait de s'être si imprudemment engagé par ces rodomontades. Jamais il n'imaginait qu'on les prendrait au sérieux. Maintenant, il ne lui était plus possible de s'esquiver sans devenir la risée de Verse. Soudain, une voix se fit entendre assez distinctement au milieu du silence général. Et voici les paroles qui furent lentement prononcées.
Nicolas Day. « Ne va pas demain au bout où il t'arrivera malheur. »
Qui s'était exprimé de la sorte ? D'où venait cette voix que personne ne connaissait ? Ce pouvait être qu'une voix de revenant, une voix surnaturelle, une voix de l'autre monde.
Le plus brave, c'était évidemment Nick Deck, voulut alors savoir à quoi s'en tenir. Il poussa la porte de l'auberge, s'avança au dehors.
Personne. Cette nuit-là, les habitants de Verst se barricadèrent solidement dans leur maison. La terreur régnait sur le village. Le lendemain, Nick Deck et le docteur Patak se préparaient à partir sur les 9 h du matin.
L'intention du forestier était de remonter le col de Vulcan en se dirigeant par le plus court vers le bourg suspect. Il avait dit qu'il irait au château des Carpates et rien ne saurait l'en empêcher, pas même cette menace qui lui avait été adressée directement. Nigdek et le docteur Patak marchèrent le long du Niad en remontant sa rive droite. C'était le seul côté par lequel le bourg fut abordable. Mais livré depuis 20 ans aux envahissements de la végétation, obstrué par l'inextricable fouillis des broussailles, c'est en vain qu'on eût cherché la trace d'une sente ou d'une tortillère. « Tu vois, forestier, dit le docteur, tu vois, il n'y a même pas de chemin. »« Il y en aura, répondit Nigdek. C'est facile à dire, Nick, et facile à faire, Patak. Ainsi, t'es toujours décidé ?» Le forestier se contenta de répondre par un signe affirmatif et prit route à travers les arbres. La hachette à la main, le forestier travaillait à se frayer un passage au milieu des profondes épinées, hérissées de baïonnettes végétales, où le pied rencontrait un terrain inégal, bossué de racines ou de souches, contre lesquelles il butait quand il ne s'enfonçait pas dans une humide couche de feuilles mortes que le vent n'avait jamais balayées. Devant ces obstacles, Nigdek et son compagnon avaient fort à faire. Si le jeune forestier, agile, souple, vigoureux, parvenait à s'en tirer, le docteur Patak, essoufflé avec ses jambes courtes, son ventre bedonnant, ne pouvait éviter des chutes qui obligeaient à lui venir en aide. La lisière de la forêt fut atteinte à 3 heures de l'après-midi. Au-delà, jusqu'au plateau d'Orgal, s'étendait le rideau des arbres verts, plus clairsemé à mesure que le versant du massif gagnait en altitude. Nigdek ne put refuser au docteur 1 heure de halte au bord du torrent. « Parlons un peu, forestier, parlons sérieusement, » dit le docteur. « Je vous écoute, » répondit Nigdek. « Nick, voilà 6 heures que nous marchons et c'est à peine si nous sommes à mi-route. Il fera nuit lorsque nous arriverons devant le château. Il faudra attendre le jour. »«
Nous l'attendrons. »«
Comment ? Nous voici exténués, ayant besoin d'une bonne table et d'un bon lit, et tu songes à passer la nuit en plein air ?»«
Bah, libre à vous de partir et tâchez de ne point vous égarer. » S'égarer, c'est bien ce qui inquiétait le docteur. D'ailleurs, d'être seul, lorsque la nuit serait venue, de descendre les pentes du col au risque de choir au fond d'un ravin, ce n'était pas pour lui agréer. Nigdek se releva.
Attends, s'écria piteusement le docteur, quel diable d'homme, j'ai les jambes raides, mes articulations ne fonctionnent plus. Elles ne tardèrent pourtant pas à fonctionner car il fallut qu'il fît trotter ses petites jambes pour rejoindre le forestier qui ne se retournait même pas. Nigdek avait grandement raison de se hâter car ses dessous de bois s'assombrissent en peu d'instants au déclin du jour. Nigdek atteignit enfin le plateau. Après un dernier coup de collier qui réduisit le docteur à l'état de masse inerte, le pauvre homme n'aurait pas eu la force de se traîner 20 pas de plus et il tomba comme le bœuf qui s'abat sous la masse du boucher. Debout, immobile, Nigdek dévorait du regard ce château des Carpates dont il ne s'était jamais approché. Tout était abandon et silence. Un reste de jour permettait d'embrasser l'ensemble du bourg qui s'estompait au milieu des ombres du soir. L'unique pont-levis était redressé contre une poterne. Pas un filet de fumée ne s'enroulait autour de l'extravagante girouette.
« Ah bah, forestier, demanda le docteur Patak, conviendras-tu qu'il est impossible de franchir ce fossé, de baisser ce pont-levis, d'ouvrir cette poterne ?»
Nigdek ne répondit pas. Évidemment, le plus sage était d'attendre l'aube prochaine afin d'agir en pleine lumière. C'est ce qui fut résolu au grand ennui du forestier, mais à l'extrême satisfaction du docteur. Le cirque de montagne s'emplit de ténèbres, et les formes du bourg disparurent bientôt sous le crêpe de la nuit. À présent, il s'agissait de s'accommoder d'une place quelconque pour y attendre le jour et se garantir contre l'abaissement de la température qui est assez notable à cette altitude. Combien le docteur regrettait sa confortable petite maison de Verst avec sa chambre bien close et son lit bien doublé de coussins et de courtes pointes. Tout en s'abandonnant à ses idées, le docteur vit le forestier tirer tranquillement de son bissac un morceau de viande après avoir puisé une bonne gorgée à sa gourde. Ce qu'il avait de mieux à faire, pensa-t-il, c'était de l'imiter et c'est ce qu'il fit. Mais s'il parvint à calmer sa faim, il ne parvint pas à calmer sa peur.
Maintenant dormons, dit Nic-Deck.
Dormir, forestier ?
Bonne nuit, docteur. Habitué par profession à coucher au milieu des bois, il ne tarda pas à tomber dans un profond sommeil. Aussi le docteur ne put-il que maugréer entre ses dents lorsqu'il entendit le souffle de son compagnon s'échappant à intervalles irréguliers. Quant à lui, son cerveau était en proie à ces extravagantes visions qui naissent des troubles de l'insomnie. Il s'était redressé, l'infortuné docteur. Il écoutait ces bruits qui se propagent à la surface des eaux, des hauts plateaux, ces murmures inquiétants qui tiennent à la fois du susurrement, du gémissement et du soupir. Ainsi s'écoulèrent de longues heures jusqu'à minuit. Minuit, c'était l'heure effrayante entre toutes, l'heure des apparitions, l'heure des maléfices. Que se passait-il donc? Le docteur venait de se relever, se demandant s'il s'était éveillé ou s'il se trouvait sous l'influence d'un cauchemar. En effet, là-haut, il crut voir, Il vit réellement des formes étranges monter, s'abaisser, descendre avec les nuages. On eût dit des espèces de monstres, dragons à queue de serpent, hippogriffes aux larges ailes, vampires énormes qui s'abattaient comme pour le saisir de leurs griffes ou l'engloutir dans leurs mâchoires. Et très distinctement, des battements jetés à petit intervalle arrivèrent à son oreille. La cloche. La cloche, murmure-t-il. Le forestier a été tiré de son sommeil par les volées terrifiantes de cette cloche. Il s'est redressé tandis que le docteur Patak semble comme rentré en lui-même. Soudain, des rugissements se déchaînent en tumultueuses ondes, puis une clarté jaillit du donjon central, une clarté intense, d'où sortent des éclats d'une pénétrante vivacité, des corussations aveuglantes. Une minute. Une minute dura cet horrible phénomène. Puis l'étrange lumière s'affaiblit graduellement et le plateau d'Orgal rentra dans le silence et l'obscurité. À quoi songeait Nic-Deck devant ces choses si évidemment surnaturelles à ses yeux? S'entêterait-il à poursuivre cette téméraire aventure? Cette nuit s'acheva enfin et ni le forestier ni le docteur n'eurent conscience du temps qui s'écoula jusqu'au lever du jour. Nic-Deck se retourna vers le château, vit ses formes s'accentuer peu à peu, le donjon se dégager des brumes qui descendaient le col de Vulcan, puis sur le bastion d'angle se découper le hêtre. Nic-Deck tourna son regard vers l'entrée principale du château. Chose dite, chose faite, c'était sa devise. Ni la voix mystérieuse qu'il avait menacée dans la grande salle du roi Mathias, ni les phénomènes inexplicables dont il venait d'être témoin ne l'empêcheraient de franchir la muraille du bourg. Quant au docteur Patak, ce n'était qu'une machine inerte, n'ayant ni la force de résister, ni même celle de vouloir. Il ne fit aucune observation lorsque le forestier, montrant le château, lui dit « Allez !» Il existait au-dessus de la poterne une sorte de meurtrière, ou plutôt une embrasure. Or, en se servant de l'une des chaînes du pont-levis, qui pendait jusqu'au sol, il ne serait pas très difficile à un homme leste et vigoureux de se hisser jusque-là. Nic-Deck parviendrait sans doute alors à s'introduire dans la cour du bourg. Le forestier longea la base de la courtine et s'arrêta au-dessous de la poterne. Il commença à grimper le long de la chaîne et ce ne fut qu'un jeu pour ses muscles de montagnard. Mais lorsque le docteur se vit seul, voilà que le sentiment de la situation lui revint dans une certaine mesure. Il aperçut son compagnon déjà suspendu à une douzaine de pieds au-dessus du sol et alors de s'écrier d'une voix étranglée par la peur « Arrête, Nic. Arrête !» Le forestier ne l'écouta point. « Allez, viens, viens, je m'en vais, gémit le docteur. »« Va-t'en !» répondit Nic-Deck. Et il continua de s'élever lentement le long de la chaîne du pont-levis. Le docteur Patak, au paroxysme de l'effroi, voulut alors reprendre à toutes jambes le chemin de Berthe. Et... Oh ! Prodige ! Voici qu'il ne peut plus bouger. Ses pieds sont retenus comme s'il était saisi entre les mâchoires d'un étau, n'ayant même plus la force de crier Il tend désespérément les mains. On dirait qu'il veut s'arracher aux étreintes de quelque tarasque dont la gueule émerge des entrailles de la terre. Cependant, Nic Deck était parvenu à la hauteur de la poterne et il venait de poser sa main sur l'une des ferrures où s'emboîtait l'un des gonds du pont-levis. Un cri de douleur lui échappa, puis se rejetant en arrière comme s'il eût été frappé d'un coup de foudre, il glissa le long de la chaîne qu'un dernier instinct lui avait fait ressaisir et roula jusqu'au fond du fossé. « La voix avait bien dit qu'il m'arriverait malheur, murmura-t-il, et il perdit connaissance. » Le lendemain, à l'aube, la population de Verse était dehors. On disait que le berger Frick venait de se porter en avant à un bon mille du village. Une demi-heure après, il était signalé à quelques centaines de pas en haut de la route. « Eh ben, Frick, que sais-tu? Qu'as-tu appris ?» lui demandera maître Colt. « Rien vu, rien appris, » répond Frick. « Rien, » murmura Myriota, dont les yeux s'emplirent de larmes. Au lever du jour, reprit le berger, « j'avais aperçu deux hommes à un nid d'ici. J'ai d'abord cru que c'était Nic Deck accompagné du docteur, mais c'était pas lui. Ainsi, tu n'as aucune nouvelle de Nic Deck ?»«
Aucune. » »«
Mais vous pourrez interroger ces voyageurs dans quelques jours, » ajouta Frick, « car ils comptent faire halte à Verse. » Cependant, il était nécessaire et urgent de prendre un parti. Il fallait aller au secours du forestier et du docteur sans perdre un instant. Cela décidé, après maintes discussions et démarches, les plus braves se trouvèrent au nombre de trois. Ce furent Maître Colt, le berger Frick et l'aubergiste Jonas. Vers 9 h, ils prirent la route du col de Vulcan. La désolation devint générale à Verse. En admettant qu'il ne leur arriva pas malheur, on ne pouvait compter sur le retour de Maître Colt et de ses deux compagnons avant que la nuit eût enveloppé les hauteurs environnantes. Quelle fut donc la surprise lorsqu'ils furent aperçus vers 2 h de l'après-midi dans le lointain de la route. Ils n'étaient pas trois, ils étaient quatre, et le quatrième se montra sous les traits du docteur. Nic Deck était là, étendu sur une civière de branchages que Jonas et le berger portaient péniblement. Myriota se précipita vers son fiancé et le serra entre ses bras. « Il est mort !» s'écria-t-elle, « il est mort !»« Non, il n'est pas mort, » répondit le docteur Patak, « mais il mériterait de l'être, et moi aussi. » La vérité est que le jeune forestier avait perdu connaissance. Les membres raidis, la figure exsangue, sa respiration lui soulevait à peine la poitrine. Lorsqu'il lui était ramené au village et déposé dans la chambre de Maître Colt, il n'avait pas encore prononcé une seule parole. Une partie de son corps était paralysée, comme s'il eût été frappé d'hémiplégie. Toutefois, voulant rassurer Myriota, il lui dit d'une voix bien faible, « Ce sera rien, ce sera rien. » Pendant la première semaine de juin, personne ne s'aventura hors du village. Pas même pour vaquer aux travaux de culture. On se tenait chez soi, portes et fenêtres closes. Il va de soi que l'auberge du roi Mathias continuait d'être déserte. Personne n'avait l'audace d'en franchir le seuil et Jonas se demandait si, faute de clients, il n'en serait pas réduit à cesser son commerce. Lorsque l'arrivée de 2 voyageurs vint modifier cet état des choses. Dans la soirée du 9 juin, le loquet de la porte fut soulevé du dehors. Mais cette porte, verrouillée en dedans, ne put s'ouvrir.
« Qui est là ?»
demanda Jonas. « Ce sont 2 voyageurs.
Vivants ?
Aussi vivants qu'on peut l'être, monsieur l'aubergiste, mais qui ne tarderont pas à mourir de faim si vous avez la cruauté de les laisser dehors. » Jonas se décida à repousser les verrous et 2 hommes franchirent le seuil de la salle. Le plus jeune de ces voyageurs paraissait avoir 32 ans environ. Une taille élevée, une figure noble et belle, des yeux noirs. Tout cela était d'un gentilhomme et un aubergiste aussi observateur que Jonas ne pouvait s'y tromper. Lorsqu'il demanda sous quel nom il devait inscrire les 2 voyageurs, le comte Franz de Télek répondit « Et son soldat Rotko ?» répondit le jeune homme. « De quel pays ? de Craiova. Craiova est une des principales bourgades de l'État de Roumanie, vers le sud de la chaîne des Carpates. Quant à Rotzko, homme d'une quarantaine d'années, robuste, épaisse moustache, cheveux drus, il avait une tournure bien militaire. Ces deux voyageurs n'étaient autres que ceux rencontrés par le berger Frick une dizaine de jours auparavant sur la route du sol, sur la route du col. Vous ne semblez pas avoir grand monde à votre auberge, dit Franz de Télek. En effet, il ne s'y trouve personne en ce moment, monsieur le comte. Ce n'est donc pas l'heure où les gens du pays viennent boire en fumant leur pipe ? L'heure est passée, monsieur le comte, car on se couche avec les poules au village de Vers. Jamais il n'aurait voulu dire pourquoi le roi Mathias ne renfermait pas un seul client. Franz de Télek n'insista pas. Heureusement pour Jonas, qui ne savait plus que répondre. La nuit s'écoula tranquillement. Le lendemain, dès le point du jour, la nouvelle se répandit que deux voyageurs étaient descendus au roi Mathias et nombre d'habitants accoururent devant l'auberge. Vers 9 h, le bureau entra, quelque peu hésitant. Presque aussitôt, il fut suivi du magister Hermord et du patour Frick. Jonas se hâta de servir des liqueurs variées, les meilleures de sa cave. Après avoir acquitté la taxe des voyageurs, Franz de Télek désira savoir si elle était productive. Pas autant que nous le voudrions, monsieur le comte, répondit maître Colt. Est-ce que les étrangers ne visitent que rarement cette partie de la Transylvanie ? Rarement, en effet, répliqua le bureau. C'est probablement parce que ces environs n'offrent rien de curieux, répliqua le jeune comte. En effet, rien de curieux, dit le bureau en songeant en bourre. Non, rien de curieux, répéta le magistère. Oh, fit le berger Frick, auquel cette exclamation échappa involontairement. Quel regard lui jetèrent maître Colt et les autres. Était-il donc urgent de mettre un étranger au courant des secrets du pays ? Toutefois, la curiosité du jeune comte ayant été éveillée, il s'adressa directement à Frick et lui demanda ce que signifiaient ces ho-ho interjectifs. Qui est-il donc ? Demanda-t-il. Ce qu'il y a, mon maître, eh bien, il y a le château des Carpates. Le château des Carpates. Maintenant, une brèche était faite au mur de la vie privée du superstitieux village, et toute son histoire ne tarda pas à passer par cette brèche. Maître Colt raconta en détail les aventures de Nic Deck et du docteur Patak. Ainsi, dit le jeune comte, lorsque le docteur a voulu sortir du fossé, ses pieds étaient si fortement retenus au sol qu'il n'a pu faire un pas en avant. Ni un pas en avant, ni un pas en arrière, ajouta le magister Hermord. Il l'aura cru, votre docteur, répliqua Franz de Télek. Et c'est la peur qui le talonnait jusque dans les talons. Soit, monsieur le comte, reprit maître Colt, mais comment expliquer que Nic Deck ait éprouvé une effroyable secousse quand il a mis la main sur la ferrure du pont-levis ? Quelques mauvais coups dont il a été victime. Et même si mauvais, reprit le bureau, qu'il est au lit depuis ce jour-là. Pas en danger de mort, j'espère, se hâta de répliquer le jeune comte. Non, par bonheur. En réalité, il y avait là un fait matériel, un fait indéniable, et maître Colt attendait l'explication que Franz de Télek en allait donner. Voici ce qu'il répondit très explicitement. Ce qui n'est pas douteux pour moi, c'est que le château des Carpates est maintenant occupé. Par qui ? Je l'ignore. En tout cas, ce ne sont point des esprits, ce sont des gens qui ont intérêt à se cacher après y avoir cherché refuge. Sans doute des malfaiteurs. Des malfaiteurs, s'écria maître Colt. C'est probable, et comme ils ne veulent point que l'on vienne les y relancer, ils ont tenu à faire croire que le bourg était hanté par des êtres surnaturels. Ce pays est très superstitieux, les hôtes du château le savent, et ils ont voulu prévenir de cette façon la visite des importuns. Il était vraisemblable que les choses avaient dû se passer ainsi, mais on ne s'étonnera pas que personne à Vers ne voulût admettre cette explication. Le jeune comte dit bien qu'il n'avait aucunement convaincu un auditoire qui ne voulait pas se laisser convaincre. Aussi, se contenta-t-il d'ajouter « Vraiment, je regrette de ne pouvoir disposer de 24 heures, car Rotzko et moi, nous serions allés visiter votre fameux bourg, et je vous assure que nous aurions bientôt su à quoi nous en tenir. » Quelques-uns se dirigèrent vers la porte, peu soucieux de rester plus longtemps en un logis où ce jeune sceptique osait soutenir de pareilles choses. Franz de Télek les arrêta d'un geste. Mais j'y pense, monsieur, reprit alors le jeune comte. Vous m'avez pas encore dit à qui appartient ou appartenait le château des Carpates.
À une ancienne famille du pays, la famille des barons de Gortz, répondit maître Colt.
Franz de Télek avait pâli, et machinalement il répétait ce nom d'une voix altérée. Rodolphe de Gortz. Rodolphe de Gortz.
Pendant son enfance, Franz n'avait jamais quitté le château patrimonial. Il n'eut pour instituteur qu'un vieux prêtre italien qui ne put lui apprendre que ce qu'il savait. Et il ne savait pas grand-chose. Chasser avec passion, courir nuit et jour à travers les forêts et les plaines, tels furent les passe-temps ordinaires du jeune comte. Cependant, Franz finit par sentir le besoin d'élargir un horizon que limitaient étroitement les montagnes roumaines, et un jour il abandonna le château de Craiova et quitta le pays valaque. Il emmenait avec lui Rotko, un ancien soldat, depuis 10 ans déjà au service de la famille de Télek. Ce fut l'Italie que Franz de Télek voulut visiter d'abord. L'esprit largement ouvert aux splendeurs de l'art, il s'enthousiasmait devant les chefs-d'œuvre de la peinture lorsqu'il visitait les musées de Naples, de Venise, de Rome et de Florence. En même temps, les théâtres lui avaient fait connaître les œuvres lyriques de cette époque et il s'était passionné pour l'interprétation des grands artistes. Ce fut lors de son dernier séjour à Naples qu'un sentiment d'une nature plus intime s'empara de son cœur. Il y avait à cette époque, au théâtre San Carlo, une célèbre cantatrice dont la voix pure, la méthode achevée, le jeu dramatique faisaient l'admiration des dilettanti. La Stilla, alors âgée de 25 ans, était une femme d'une beauté incomparable, avec sa longue chevelure aux teintes dorées, ses yeux noirs et profonds, sa carnation chaude, sa taille que le ciseau d'un praxitèle n'aurait pu former plus parfaite. Dès la première fois qu'il vit la Stilla, Franz éprouva les entraînements irrésistibles d'un premier amour. Il était de toutes ces représentations que l'enthousiasme du public transformait en véritable triomphe. Sous cette tension du cœur et de l'esprit, sa santé ne tarda pas à être sérieusement compromise, et que l'on juge de ce qu'il aurait souffert s'il avait eu un rival. Mais il le savait, nul n'aurait pu lui porter ombrage, pas même un certain personnage assez étrange dont les péripéties de cette histoire exigent que nous fassions connaître les traits et le caractère. Cet être peu communicatif paraissait affecté de se tenir en dehors de ces conventions sociales qui sont acceptées des hautes classes. On ne savait rien de sa famille, de sa situation, de son passé. En réalité, on ne lui connaissait qu'une passion, entendre la prima donna d'un si grand renom qui occupait alors la première place dans l'art du chant. Quel était ce spectateur si assidu ? La Stilla avait en vain cherché à l'apprendre, aussi avait-elle fini par s'effrayer de la présence de cet homme bizarre. Bien qu'elle ne pût l'apercevoir au fond de la loge, elle le savait là. Elle sentait son regard fixé sur elle, et qui la troublait à ce point qu'elle n'entendait même plus les bravos dont le public accueillait son entrée en scène. Un compagnon non moins hétéroclite que lui partageait son existence. Cet individu s'appelait Orphanique. À l'entendre, il était un de ces savants méconnus dont le génie n'a pu se faire jour et qui ont pris le monde en aversion. Signe particulier, il portait une œillère noire sur son œil droit, qu'il avait dû perdre sans quelque expérience, dans quelques expériences de physique ou de chimie. Bien que l'admirateur de la Stilla eût toujours repoussé les reporters et leurs indiscrètes interviews, on avait fini par connaître son nom et sa nationalité. Ce personnage était d'origine roumaine, et lorsque Franz de Télek demanda comment il s'appelait, on lui répondit « Le baron Rodolphe de Gortz. » Les choses en étaient là, à l'époque où le jeune comte venait d'arriver à Naples. Ce fut alors qu'un bruit courut à Naples,
un bruit auquel le public refusait de croire. On disait que, la saison achevée, la Stilla allait renoncer au théâtre. Si invraisemblable que ce fût, c'était vrai. Et sans qu'il s'en doutât, le baron de Gortz était en partie cause de cette résolution. Ce spectateur aux allures mystérieuses avait fini par provoquer chez la Stilla une émotion nerveuse et persistante. Dès son entrée en scène, elle se sentait impressionnée à tel point que ce trouble très apparent pour le public avait altéré peu à peu sa santé. Et pour se délivrer de cette obsédante importunité, le seul moyen était d'abandonner le théâtre. Or, depuis 2 mois déjà, Franz de Télek avait pu se faire admettre chez la Stilla et lui avait offert de devenir comtesse de Télek. La Stilla n'était pas sans connaître de longue date les sentiments qu'elle inspirait au jeune homme, et elle s'était dit que c'était un gentilhomme auquel toute femme eût été heureuse de confier son bonheur. Aussi, lorsque Franz de Télek lui offrit son nom, l'accueillit-elle avec une sympathie qu'elle ne chercha point à dissimuler. Il en résulta des menaces personnelles à l'adresse de Franz de Télek, menaces dont le jeune homme ne se préoccupa pas un instant. On imagine ce que dut éprouver le baron Rodolphe de Gortz à la pensée que la Stilla allait lui être enlevée, qu'il perdrait avec elle tout ce qu'il attachait à la vie. Cependant, les jours s'écoulaient, l'émotion ne se calmait pas, et elle allait être portée au comble le soir où la Stilla ferait sa dernière apparition sur le théâtre. Ce soir-là, San Carlo fut 10 fois trop petit pour contenir les spectateurs qui se pressaient à ses portes. La Stilla parut, plus émue qu'elle ne l'avait jamais été. L'enthousiasme indescriptible qu'elle excita parmi les spectateurs s'éleva jusqu'au délire. Pendant la représentation, le jeune comte s'était tenu au fond de la coulisse, impatient, énervé, fiévreux. Ah, qu'il lui tardait d'arracher à ce théâtre celle qui allait devenir comtesse de Télek et de l'emmener loin, loin, bien loin, si loin qu'elle ne serait plus qu'à lui, à lui seul. Elle arriva. Elle arriva. Cette dramatique scène où meurt l'héroïne. Jamais la Stilla ne l'interpréta avec des accents plus passionnés. Toute son âme semblait se distiller à travers ses lèvres, et cependant, on eût dit que cette voix déchirée par instant allait se briser, cette voix qui ne devait plus se faire entendre. À ce moment, la grille de la loge du baron de Gortz s'abaissa. Une tête étrange, aux longs cheveux grisonnants, aux yeux de flamme se montra, et du fond de la coulisse, Franz l'aperçut en pleine lumière. La Stilla se laissait emporter alors avec toute la fougue de cette enlevante traité du chant final. Voglio morire! Soudain, elle s'arrêta. La face du baron de Gortz la terrifie. Une épouvante inexplicable la paralyse. Elle porte vivement la main à sa bouche qui se rougit de sang. Elle chancelle, elle tombe. Le public s'est levé, palpitant, affolé, au comble de l'angoisse. Franz vient de se précipiter sur la scène. Il prend la Stilla entre ses bras. Il se relève, il l'appelle. « Morte !» s'écrie-t-il. « Morte ! La Stilla est morte !» Un vaisseau s'est rompu dans sa poitrine. Son chant s'est éteint avec son dernier soupir. La nuit même, le baron de Gortz, accompagné de Orfanik, quitta Naples, et depuis son départ, personne n'aurait pu dire ce qu'il était devenu. Mais le lendemain, une lettre arrivait à l'adresse du jeune comte. Cette lettre ne contenait que ces mots d'un laconisme menaçant. C'est vous qui l'avez tué. Malheur à vous, comte Télek. Rodolphe de Gortz. Franz de Télek, demeuré seul dans la grande salle du roi Mathias, s'abandonna au cours de ses souvenirs que le nom du baron de Gortz
venait d'évoquer si douloureusement. Pourquoi fallait-il qu'une mauvaise chance lui amenait précisément à ce village de Verst, dans le voisinage du château des Carpates? Il s'égarait à travers le champ des hypothèses, ne sachant à laquelle s'arrêter. L'aventure du forestier, Nic Deck ne laissait pas de le préoccuper, et il lui aurait plu d'en découvrir le mystère. C'est pourquoi, vers 3 heures de l'après-midi, il se présenta à la maison du juge. Nic Deck avait été instruit de l'arrivée des deux voyageurs à l'auberge du roi Mathias, et comme il ne ressentait presque plus la paralysie qu'il avait momentanément frappée, il était en état de répondre aux questions du comte de Télec. « Monsieur Deck, » dit Franz, après avoir amicalement serré la main du jeune forestier. « Je vous demanderai tout d'abord si vous croyez à la présence d'êtres surnaturels dans le château des Carpates. »« Je suis bien forcé d'y croire, monsieur le comte, » répondit Nic Deck. « S'il n'y avait pas de génie, ce qui m'est arrivé serait inexplicable. » Auriez-vous la complaisance de me raconter cette affaire sans rien omettre de ce qui s'est passé ? Volontiers, monsieur le comte. Nic Deck fit par le menu récit ce qui lui était arrivé. Il ne put que confirmer les faits qui avaient été portés à la connaissance de Franz lors de sa conversation avec les hôtes du roi Mathias. En somme, tout s'expliquait facilement. Si les êtres humains qui occupaient le bourg possédaient la machinerie capable de produire ces effets fantasmagoriques, quant à cette singulière prétention du docteur Patak de s'être senti enchaîné au sol par quelque force invisible, on pouvait soutenir que les jambes lui avaient manqué tout simplement parce qu'il était fou d'épouvante. Et c'est ce que Franz déclara au jeune forestier. C'est au moment où il voulait s'enfuir que les jambes auraient manqué à ce poltron, répondit Nic Deck. Ce n'est guère possible, vous en conviendrez. Franz fut assez embarrassé pour répondre. Dites-moi, reprit le comte, ce château a-t-il appartenu de tout temps à la famille de Gortz ? Oui, bien que le baron Rodolphe ait disparu sans qu'on ait jamais eu de ses nouvelles. Et que croit-on dans le pays ? On croit que le baron Rodolphe a dû mourir à l'étranger. On se trompe. Le baron vit encore. Il y a 5 ans du moins, il vivait. Il vivait, monsieur le comte ? Oui, en Italie, à Naples. Désireux de ne plus revenir sur ce terrain, le jeune comte prit congé de Nic Deck en lui faisant l'express recommandation de se guérir le plus vite possible. Absorbé dans ses réflexions, Franz rentra au roi Mathias, d'où il ne sortit plus de la journée. À demi couché dans un fauteuil, il se laissa aller de nouveau à remonter le cours inoubliable du passé. Il était à Naples pendant la dernière représentation du théâtre San Carlo. Il revoyait le baron de Gortz, ses regards ardemment fixés sur l'artiste, comme s'il eût voulu la fasciner. Franz sentait le sommeil le gagner peu à peu lorsque se produisit un phénomène surprenant. Il semble qu'une voix douce et modulée passe dans cette salle où Franz est seul. Bien seul pourtant. Oui. On dirait qu'une bouche s'est approchée de son oreille et que des lèvres invisibles laissent échapper l'expressive mélodie inspirée par ses paroles. Il giardino dei mille fiori, andiamo mio cuore. Puis la phrase s'achève et la voix s'éteint avec les molles vibrations de l'air. Tout est silence, au dehors, au dehors. Sa voix, murmure-t-il, sa voix que j'ai tant aimée. Puis revenons au sentiment de la réalité. Je dormais, j'ai rêvé. Le lendemain, le jeune comte se réveilla dès l'aube, l'esprit encore troublé des visions de la nuit. Un revirement s'était opéré dans ses idées et il hésitait à présent. Peut-être le baron de Gortz vivait-il ? Et s'il vivait, pourquoi ne serait-il pas retourné au château de ses ancêtres? Pourquoi Orphanique ne l'y aurait-il pas accompagné? Pourquoi ne serait-il pas le metteur en scène de ces phénomènes qui ne cessaient d'entretenir l'épouvante dans le pays? On en conviendra, cette hypothèse paraissait assez plausible. Rotzko vint le rejoindre et Franz jugea à propos de lui faire connaître ses idées à ce sujet. « Mon maître, répondit Rotzko, mon avis est qu'il ne faut point nous en mêler. Les poltrons de verre se tireront de là comme ils l'entendront. » « Soit, répondit Franz, je pense que tu as raison, mon brave Rotzko. Nous nous mettrons en route après déjeuner. Mais avant de redescendre dans la vallée, je désirerais voir de plus près ce singulier château des Carpates. » Rotzko fut très contrarié de cette détermination qui lui paraissait inutile, mais c'est que Franz se sentait attiré vers le bourg. Peut-être cette attraction se rattachait-elle à ce rêve dans lequel il avait entendu la voix de la Stilla. Mais avait-il rêvé? Il était 7h30 lorsque Franz de Télek et Rotzko s'arrêtèrent à la limite extrême du plateau d'Orgal. Devant eux se développait ce farouche entassement noyé d'ombre, confondant sa teinte avec l'antique coloration des roches du Plaisa. Nulle autre habitation n'aurait pu mieux convenir aux derniers descendants de la famille de Gortz pour s'y ensevelir dans un oubli dont personne ne pourrait connaître le secret. Rotzko, qui voulait laisser le jeune comte à lui-même, avait eu soin de se mettre à l'écart. Mais lorsque la vallée commença à s'emplir d'ombre, il n'hésita plus. « Mon maître, dit-il, le soir est venu. » « Encore quelques minutes, répondit Franz, et nous redescendrons vers le village. » Il semblait que Franz fût invinciblement retenu devant le bourg. « Mon maître, vous venez ?» répéta Rotzko. Et Franz allait enfin le suivre lorsque sur le terre-plein du bastion apparut une forme vague. C'était une femme, la chevelure dénouée, les mains tendues, enveloppée d'un long vêtement blanc. Mais ce costume... N'était-ce pas celui que portait la Stilla dans cette scène finale d'Orlando où Franz de Télek l'avait vue pour la dernière fois? Oui, c'était la Stilla, immobile, les bras dirigés vers le jeune comte, son regard si pénétrant attaché sur lui. Elle, s'écria-t-il. L'apparition s'effaça brusquement. C'est à peine si la Stilla s'était montrée pendant une minute. Peu importait. Une seconde eût suffi à Franz pour la reconnaître et ses mots lui échappèrent. Elle, vivante! L'effroyable vérité éclata aux yeux du jeune comte. Ainsi, cette femme adorée était enfermée depuis 5 ans au milieu des montagnes transylvaines. Ainsi, celle que Franz avait vue tomber, morte, avait survécu. Rotzko, dit Franz d'une voix haletante, il faut que j'arrive jusqu'à elle. Ce soir même, descends au village de Vulcan. Si tu ne me revois pas demain, tu préviendras le chef de la police. S'il le faut, que l'on donne l'assaut du bourg. Ah, oh, ciel de Dieu, elle vivante et sous le pouvoir de Rodolphe de Gortz. Rotzko n'avait plus qu'à obéir. D'ailleurs, Franz s'était éloigné et déjà l'ombre le dérobait au regard du soldat. Soutenu par une force surhumaine, Franz se sentait guidé par un extraordinaire instinct qui ne pouvait le tromper. Ce n'était pas la curiosité qui le poussait au milieu de ces ruines, c'était la passion. Et pas un repère pour se diriger, pas une lueur dans la sombre nuit qui voilait jusqu'au faîte du donjon central. Franz allait pourtant se hissant ici sur un bloc énorme qui lui fermait tout passage, là rampant entre les roches, ses mains déchirées aux chardons et aux broussailles, sa tête effleurée par des couples d'orfraies qui s'enfuyaient en jetant leur horrible cri de crécelle. Un cri lui échappa, un cri de désespoir. « Stilla ! Ma Stilla !» À 20 reprises, il jeta ce nom que lui renvoyèrent les échos du plaisard. Soudain, les yeux de Franz furent impressionnés. Une lueur se glissait à travers l'ombre. Une lueur assez vive dont le foyer devait être placé à une certaine hauteur. Là était le bourg. Il se dirigea vers cette lumière, dont l'éclat s'accroissait à mesure qu'il s'en rapprochait. Le pont-levis était baissé. Franz franchit le tablier branlant du pont et mit la main sur la porte. Cette porte s'ouvrit. Franz se précipita sous la voûte obscure, mais à peine avait-il marché quelques pas que le pont-levis se relevait avec fracas contre la poterne. Le comte Franz de Télek était prisonnier dans le château des Carpates. La galerie dans laquelle Franz s'était élancé se trouvait plongée alors au milieu de la plus complète obscurité. Tout était obscur, insondable, et c'est en vain qu'il cherchait à s'orienter au sein de ce labyrinthe, véritable travail de taupe. Il ne se décourageait point et il irait tant que la force ne lui manquerait pas, tant qu'un infranchissable obstacle ne l'obligerait pas à s'arrêter. Franz marcha ainsi l'espace d'une demi-heure. Et brisé de fatigue, il venait de s'arrêter lorsqu'un point lumineux apparut à 200 ou 300 de pieds en avant.
Serait-ce elle ? Murmura Franz.
Hâtait sa marche en rampant, car ses jambes pouvaient à peine le soutenir. C'est à quoi se décida Franz, et après avoir franchi une étroite ouverture, il tomba sur le seuil d'une crypte. Quelques meubles délabrés garnissaient la crypte. Ici un lit, là une table, sur laquelle se trouvait un large broc rempli d'eau, un plat contenant un morceau de venaison froide et une grosse miche de pain. Ces dispositions n'indiquaient-elles pas qu'un hôte était attendu dans cette crypte ? Ou plutôt un prisonnier dans cette prison ? Épuisé par le besoin et la fatigue, Franz dévora les aliments déposés sur la table. Il se désaltéra avec le contenu du broc, puis il se laissa tomber au travers de ce lit grossier. Tout à coup, la clarté factice que versait l'ampoule encastrée à la clé de voûte s'éteignit, et la crypte fut plongée dans une complète obscurité. Sa pensée s'endormit, ou pour mieux dire, s'arrêta brusquement, comme l'aiguille d'une horloge dont le ressort se casse. Combien de temps avait duré ce sommeil ? Franz ne sut le constater lorsqu'il se réveilla. À l'intérieur de la crypte, la lumière avait été rétablie, la nourriture renouvelée, le broc rempli d'une eau claire. Quelqu'un était-il donc entré pendant que Franz s'était plongé dans cet accablement torpide ? On savait qu'il avait atteint les profondeurs du bourg. Coûte que coûte, il fallait qu'avant une heure, il se fût échappé du bourg. Franz se leva et se dirigea vers le couloir par lequel il était arrivé, lorsqu'une sorte de glissement se produisit derrière la seconde porte de la crypte. C'était certainement un bruit de pas qui se rapprochait. Franz vint placer son oreille contre la porte et, retenant sa respiration, il écouta. Les pas s'étaient arrêtés. Franz, ne faisant pas un mouvement, attendait que la porte s'ouvrit. Elle ne s'ouvrit pas. Une voix d'une douceur infinie arriva jusqu'au jeune comte. C'était la voix de la Stilla. Et la Stilla répétait la plaintive mélodie qui avait bercé Franz dans la grande salle de l'auberge de Verst. Ce chant le pénétrait jusqu'au plus profond de son âme. Il l'aspirait, il le buvait comme une liqueur divine. Andiamo, mio cuore, andiamo. Stilla, pastilla. Et il se jeta sur la porte qui résista à ses effets. Déjà le chant semblait s'affaiblir, la voix s'éteindre, les pas s'éloigner. Folle, folle, s'écria-t-il, elle est folle puisqu'elle ne m'a pas reconnue depuis 5 ans enfermée ici au pouvoir de cet homme, ma pauvre Stilla. Alors il se releva, les yeux hagards, les gestes désordonnés, la tête en feu. « Moi aussi, je sens que je vais devenir fou, » répétait-il, « fou comme elle. » Et il s'élança vers la première porte. Mais elle venait de se fermer sans bruit. Franz ne s'en était pas aperçu pendant qu'il écoutait la voix de Stilla. Après avoir été emprisonné dans l'enceinte du bourg, il était maintenant emprisonné dans la crypte. Franz était enterré. « Il faut m'enfuir d'ici, » se dit-il. « Dès qu'on rouvrira cette porte, j'attendrai, je feindrai de dormir. » Il essaya alors de raisonner froidement, de se reconnaître dans le chaos de ses pensées, puisqu'il ne pouvait pas s'enfuir. Il pourrait s'enfuir peut-être par l'une des deux portes. Il voulut se rendre compte de l'état dans lequel elle se trouvait. La porte par laquelle il était arrivé était très solide, très épaisse. Donc inutile d'essayer d'en forcer les vantaux. La seconde porte semblait bien moins conservée. Les planches étaient pourries par endroits. Peut-être ne serait-il pas trop difficile de se frayer un passage de ce côté. 3 heures après, les verrous étaient dégagés et la porte s'ouvrait en grinçant. Dès qu'il eut fait quelques pas, Franz heurta une marche. Là commençait un escalier dont il compta les degrés en le montant, 60 seulement. Il semblait que ce corridor fût interminable quand un obstacle l'arrêta. C'était la paroi d'un mur de briques. Et tâtant à diverses hauteurs, sa main ne rencontra pas la moindre ouverture, mais au niveau du sol, la paroi présentait une étroite crevasse dont les briques disjointes adhéraient à peine et s'ébranlaient sous les doigts. Par là, ouais, par là, s'écria Franz. Et il commençait à enlever les briques une à une, lorsqu'un bruit se fit entendre de l'autre côté. Franz regarda. Là était la vieille chapelle du château, déserte depuis si longtemps, ouverte aux intempéries du climat des Carpates. Un homme venait d'entrer. C'était Orfanik, cet inventeur toujours à la poursuite de quelques chimères et qui mettait certainement ses inventions au service de Rodolphe de Gort. Courbé vers le sol, il venait de soulever plusieurs cylindres de fer auxquels il attachait un fil qui se déroulait d'une bobine déposée dans un coin de la chapelle. Quelques minutes après l'arrivée d'Orfanik, un autre homme pénétra dans la chapelle. C'était le baron Rodolphe de Gortz. L'inoubliable physionomie de ce personnage n'avait pas changé. Il ne semblait même pas avoir vieilli avec sa figure pâle et longue et ses longs cheveux grisonnants. Son regard étincelant jusqu'au fond de ses noires orbites. Voici les propos qui furent échangés, d'une voix brève, entre ces deux hommes. Le raccommodement de la chapelle est-il fini, Orfanik ? Je viens de l'achever. Et après que l'appareil aura lancé le courant, nous aurons le temps de nous enfuir ? Nous l'aurons. A-t-on vérifié si le tunnel qui débouche sur le col de Vulcan était libre ? Il l'est. « Ah, mon vieux bourg !» s'écria le baron. « Tu coûteras cher à ceux qui tenteront de forcer ton enceinte. » Et Rodolphe de Gortz prononça ces mots d'un ton qui fit frémir le jeune comte. « Vous avez entendu ce que se disait Averst ?» demanda-t-il à Orfanik. « Il y a 50 minutes, le film a rapporté les propos que l'on tenait dans l'auberge. L'attaque ne doit avoir lieu qu'au lever du jour. »« Eh bien... » Puisque le château ne peut plus se défendre, dit le baron de Gortz, du moins écrasera-t-il sous ses débris ce Franz de Télek et tous ceux qui lui viendront en aide.
À notre avis, l'heure est venue de donner l'explication de certains phénomènes. À cette époque, nous ferons remarquer que cette histoire s'est déroulée dans l'une des dernières années du XIXe siècle. L'emploi de l'électricité avait été poussé au dernier perfectionnement. Orfanik était, en ce qui concerne l'utilisation de l'électricité, un inventeur de premier ordre. Mais on le sait, le monde savant n'avait voulu voir en lui qu'un fou au lieu d'un génie. Ce fut en ces conditions que le baron de Gortz le rencontra. Il encouragea ses travaux. Il lui ouvrit sa bourse et finalement il se l'attacha à la condition que le savant lui réserverait le bénéfice de ses inventions et qu'il serait seul à en profiter. Lorsqu'il eut pris la résolution d'enfouir son existence entre les murs de ce vieux bourg, l'intention du baron de Gortz était qu'aucun habitant du pays ne pût soupçonner son retour et que personne ne fût tenté de lui rendre visite. Orfanik installa une machinerie spéciale destiné à épouvanter le pays en produisant des phénomènes qui ne pouvaient être attribués qu'à une intervention diabolique. Mais, en premier lieu, il importait au baron de Gort d'être tenu au courant de ce qui se disait au village le plus proche. Un fil de cuivre, donc, d'un bout à l'autre, remonté au premier étage du donjon, fut déroulé sous les eaux d'une niade jusqu'au village de Vers. Il s'ensuivit que le baron de Gort pouvait entendre tout ce qui se disait au roi Mathias et y faire entendre aussi tout ce qui lui convenait.
C'est par le fil qu'ils connurent l'engagement qu'avait pris Nic Deck de se rendre au bourg, et c'est par le fil qu'une voix menaçante se fit soudain pour l'en détourner. Déjà, le jeune forestier ayant persisté dans sa résolution, le baron de Gort décida alors de lui infliger une telle leçon qu'il perdit l'envie d'y jamais revenir. Cette nuit-là, la machinerie d'Orphanique produisit une série de phénomènes de nature à jeter l'épouvante sur le pays environnant. Projection d'intenses flammes, mélange de sel marin qui donnait à tous les objets une apparence spectrale, formidable sirène d'où l'air comprimé s'échappait en mugissements épouvantables, silhouette photographique de monstres projetés au moyen de puissants réflecteurs, plaques disposées entre les herbes du fossé dont le courant avait saisi le docteur par ses bottes ferrées, et enfin une décharge électrique lancée des batteries du laboratoire qui avait renversé le forestier au moment où sa main se posait sur la ferrure du pont-levis. Rodolphe de Gort devait donc se croire à l'abri de toute curiosité importune lorsque Franz de Télek arriva au village de Vers. Sa présence à l'auberge du roi Mathias fut aussitôt signalée par le fil. Aussi le baron de Gort résolut-il de l'attirer dans le bourg, avec la voix de la Stilla envoyée à l'auberge du roi Mathias par l'appareil téléphonique, et avait provoqué le jeune comte à se détourner de sa route pour s'approcher du château. L'apparition de la cantatrice lui avait donné l'irrésistible désir d'y pénétrer. Une lumière montrée à une fenêtre du donjon l'avait guidé vers la poterne qui était ouverte pour lui donner passage. Au fond de cette crypte, de laquelle il avait encore entendu cette voix si pénétrante, Franz de Télek était au pouvoir du baron de Gort, et le baron de Gort comptait bien qu'il n'en pourrait jamais sortir. Mais le baron savait que l'éveil avait été donné par Rotzko, qui avait prévenu les autorités. Une escouade d'agents était arrivée au village de Verst et allait avoir affaire à trop forte partie. En effet, la police ne croit guère aux interventions diaboliques. Aussi, tous deux s'étaient-ils déterminés à détruire le bourg de fond en comble. Un courant électrique était préparé pour mettre le feu aux charges de dynamite qui avaient été enterrées, et l'appareil destiné à lancer ce courant devait laisser au baron de Gort et à son complice le temps de fuir par le tunnel du col du Vulcan. Tous deux s'enfuiraient si loin que jamais on ne retrouverait leurs traces. Quelques paroles furent encore échangées entre les deux hommes. Orphanique partait à l'instant par le tunnel du col de Vulcan. Je ne quitterai le bourg qu'au dernier instant. Je veux l'entendre encore une fois pendant cette dernière nuit que j'aurai passée au château des Carpathes. Il était alors 11h du soir. Ne craignant plus d'être découvert, Franz reprit son travail. Une demi-heure s'écoula avant que l'ouverture fût assez large pour lui livrer passage. Derrière le retable de l'hôtel, Franz sentit une porte vermoulue céder sous sa poussée. Il déboucha dans une large casemate percée d'étroites meurtrières par lesquelles pénétraient les rayons de la lune. À l'opposé, il y avait une porte ouverte. Franz la franchit et continua de suivre la galerie. Il arriva au seuil d'un escalier. Franz se hâta d'atteindre les étages supérieurs. Lorsqu'il eut atteint le troisième palier, son pied ne rencontra plus de marche. Et là se terminait l'escalier. Une salle spacieuse. Des tentures épaisses recouvraient ses parois. Sur le plancher se développait un tapis de haute laine sur lequel s'amortissaient ses pas. À droite de la porte, le fond disparaissait au milieu d'une profonde obscurité. À gauche, au contraire, une estrade recevait une puissante lumière due à quelque appareil de concentration. À une dizaine de pieds de cette estrade se trouvait un antique fauteuil à long dossier. Près du fauteuil, une petite table supportait une boîte rectangulaire. Cette boîte, incrustée de pierreries, dont le couvercle était relevé, contenait un cylindre métallique. Dès son entrée dans la salle, Franz s'aperçut que le fauteuil était occupé. En effet, il y avait là une personne qui gardait une complète immobilité, les paupières closes, le bras droit tendu sur la table, la main appuyée sur la partie antérieure de la boîte. C'était Rodolphe de Gort. Franz, tenant son couteau se poster derrière le fauteuil. Il n'avait plus qu'un pas à faire pour saisir le baron de Gorst, et le sang aux yeux, la tête perdue, et lever la main. Soudain, la Stilla apparut. Il laissa tomber son couteau sur le tapis. La Stilla était debout sur l'estrade en pleine lumière, ses bras tendus dans son costume blanc de l'Angelica d'Orlando, ses yeux fixés sur le jeune comte, le pénétraient jusqu'au fond de l'âme, et pourtant la Stilla ne faisait pas un geste pour l'appeler. Hélas, elle est folle. Franz allait s'élancer sur l'estrade pour la saisir entre ses bras, pour l'entraîner au dehors. La Stilla venait de commencer à chanter. Sans quitter son fauteuil, le baron de Gortz s'était penché vers elle au paroxysme de l'extase. Elle chantait pour lui, rien que pour lui. Franz, lui aussi, s'enivrait du charme de cette voix qu'il n'avait pas entendue depuis 5 longues années. Il avait reconnu le final de la tragique scène d'Orlando. Toute sa vie était attachée à ce chant. Mais voici que la voix commence à faiblir. On dirait que la Stilla hésite en répétant ces mots d'une douleur poignante. « Voglio morire !» Le chant s'arrête à la même mesure, à la même note qu'au théâtre de San Carlo. Elle pousse le même cri que Franz avait entendu ce soir-là, et pourtant, la Stilla est toujours là, debout, immobile. Franz s'élance vers elle. « Franz de Télek !» s'écrie Rodolphe de Gort. Franz de Télek qui a pu s'échapper. Mais Franz ne lui répond même pas et se précipitant vers l'estrade, « Stilla, ma chère Stilla, répétait-il, toi que je retrouve ici, vivante, vivante, la Stilla. Vivante !» s'écria le baron de Gortz. Et cette phrase ironique s'achève dans un éclat de rire où l'on sent tout l'emportement de la rage. Franz a tendu le bras vers la Stilla dont les yeux sont ardemment fixés sur lui. À ce moment, Rodolphe de Gort se baisse, ramasse le couteau qui s'est échappé de la main de Franz. Franz se précipite sur lui afin de détourner le coup qui menace la malheureuse. Il est trop tard, le couteau la frappe au cœur. Soudain, le bruit d'une glace qui se brise se fait entendre et avec les 1000 éclats de verre dispersés à travers la salle, disparaît. Et alors Rodolphe de Gort de s'écrier « La Stilla échappe encore à Franz de Télek, mais sa voix me reste, sa voix est à moi et ne sera jamais à personne. » Rodolphe de Gort saisit la boîte déposée sur la table. Il descend au premier étage du donjon, puis arrivé sur la terrasse, il allait gagner l'autre porte lorsqu'une détonation retentit. Rotzko, posté au rebord de la contrescarpe, venait de tirer sur le baron de Gortz. Le baron ne fut pas atteint, mais la balle de Rotzko fracassa la boîte qu'il serrait entre ses bras. Il poussa un cri terrible. « Sa voix, sa voix !» répéta-t-il. « Elle est brisée, sa voix !» Presque aussitôt, une formidable explosion fit trembler tout le massif du Plaisa. Des gerbes de flammes s'élevèrent jusqu'aux nuages et une avalanche de pierres retomba sur la route du volcan du château des Carpates. Il ne restait plus qu'une masse de ruines fumantes à la surface du plateau d'Orgal. L'explosion avait produit son effet. Lorsque Rotzko, Nigdek et les agents parvinrent à franchir l'enceinte, à la base du donjon, un corps fut relevé au milieu des décombres. C'était celui de Rodolphe de Gortz. Quelques anciens et anciennes le reconnurent sans hésitation. Après une demi-heure de recherche, le jeune comte fut retrouvé au premier étage du donjon sous un arc-boutement de la muraille qu'il avait empêché d'être écrasé. Rotzko et Nigdek se penchèrent sur Franz. Son regard ne semblait ni reconnaître Rotzko, ni l'entendre. Ces derniers mots de la Stilla s'échappaient seuls de sa bouche. « Voglio morire !» Franz de Télek était fou. Pendant 4 jours, Orfanik avait attendu le baron de Gortz. Ne le voyant pas reparaître, poussé par la curiosité autant que par l'inquiétude, il était revenu rôder aux environs du bourg. Les agents de la police ne tardèrent pas à s'emparer de sa personne sur les indications de Rotzko. Orfanik ne fit aucune difficulté de répondre aux questions qui lui furent posées. En premier lieu, il affirma que la Stilla était morte et qu'elle était bien enterrée depuis 5 ans à Naples. On se souvient de quel désespoir avait été saisi le baron de Gortz lorsque le bruit s'était répandu que la Stilla avait pris la résolution de quitter le théâtre pour devenir comtesse de Télek. Orfanik lui proposa alors de recueillir au moyen d'appareils phonographiques les principaux morceaux du répertoire de la cantatrice. Le baron de Gortz accepta l'offre du physicien. Des phonographes furent installés secrètement au fond de sa loge et pendant le dernier mois de la saison. C'est ainsi que se gravèrent sur leurs plaques cavatines, romances d'opéra ou concerts. Le baron de Gortz était venu s'enfermer au château des Carpates et là, chaque soir, il pouvait entendre les chants qui étaient recueillis par ses appareils. Et non seulement il entendait la Stilla, mais il la voyait comme si elle eût été vivante devant ses yeux. C'était un simple artifice d'optique. Le baron de Gortz avait acquis un magnifique portrait de la cantatrice. Ce portrait la représentait en pied avec son costume blanc de l'Angelica d'Orlando. Or, au moyen des glaces inclinées, suivant un certain angle calculé par Orfanik, lorsqu'un foyer puissant éclairait ce portrait placé devant un miroir, la Stilla apparaissait par réflexion, aussi réelle que lorsqu'elle était pleine de vie. C'est grâce à cet appareil que Rodolphe de Gortz l'avait fait apparaître lorsqu'il avait voulu attirer Franz de Télek. C'est grâce à ce même appareil que le jeune comte avait revu la Stilla dans la salle du donjon. C'est avec une fierté sans égale qu'Orfanik se déclara l'auteur de ces inventions géniales qu'il avait portées au plus haut degré de perfection. Ce qui ne s'expliquait pas, c'était pourquoi le baron de Gortz n'avait pas eu le temps de s'enfuir par le tunnel du col du Vulcan. Mais lorsqu'il eut appris qu'une balle avait brisé l'objet que Rodolphe de Gortz emportait entre ses bras, il comprit. Cet objet, c'était l'appareil phonographique qui renfermait le dernier chant de la Stilla. C'était celui que le baron avait voulu entendre une dernière fois encore dans la salle du donjon. Cet appareil détruit, c'était la vie du baron détruite aussi. Et fou de désespoir, il avait voulu s'ensevelir sous les ruines du bourg. Le baron Rodolphe de Gortz a été inhumé dans le cimetière de Werth avec les honneurs dus à l'ancienne famille qui finissait en sa personne. Quant au jeune comte de Télek, Rotzko l'a fait transporter au château de Craiova, où il se consacre tout entier à soigner son maître. Enfin, le docteur Patak, qui a repris ses fanfaronnades habituelles, ne cesse de répéter à qui veut l'entendre « Eh ben, je l'avais bien dit, des génies dans le bourg. Est-ce qu'ils existent, des génies ?» Mais personne ne l'écoute, et on le prie même de se taire. On comptera bien des années, vraisemblablement, avant que ces braves gens aient renoncé à leurs superstitieuses croyances. Longtemps encore, la jeune génération du village de Werth croira que les esprits de l'autre monde hantent les ruines du château des Carpates.